Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Allez, on va pouvoir passer à table.
Merci Nicole.
Ah, on a faim.
Elles sont bien.
Elles sont bonnes tes pâtes, Marie-Pierre.
Merci.
Est-ce que vous avez pensé à la pilule? Parce que pour moi, ça a été une vraie libération.
Ouais. Mais vraiment, faire l'amour sans angoisse, c'est merveilleux.
Non, mais ça coûte cher.
Ouais.
Moi, mon médecin, je suis allée voir pour lui en parler. Il m'a envoyé balader.
Ouais, bah moi aussi.
J'ai même pas osé.
Pareil.
Mais oui, jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution. Et puis pour eux, une femme qui peut enfin baiser librement sans avoir peur de tomber enceinte, mais bah là, c'est forcément...
C'est une salope.
Voilà, exactement.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Blandine Lenoir. Bonjour.
Bonjour.
Blandine Lenoir, vous êtes cinéaste, comédienne également, ou actrice, et vous êtes ici pour nous parler d'un film que vous aviez réalisé en 2022 qui s'intitule Annie Colère. C'est l'histoire d'une femme qui tombe accidentellement enceinte et qui ne souhaite pas garder son enfant. Et donc, elle rencontre un mouvement qui pratique ces avortements illégaux, puisque l'action se situe en 1974, peu de temps avant la promulgation du droit à l'avortement. Et donc, pour vous, ce film Annie Colère, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de le réaliser ?
C'est un film qui raconte l'entrée en politique d'une femme très ordinaire, ouvrière, parce qu'elle rencontre le MLAC. Donc le MLAC, c'était le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et en fait, quand j'ai découvert l'existence du MLAC, ce qui m'a frappée, c'est qu'on n'apprenne pas ça à l'école, tout simplement. Et parce qu'en fait, tous les ans, quand on commémore la loi Veil, c'est à chaque fois une façon d'invisibiliser le combat de la population civile. Et s'il y a eu une loi Veil, si Giscard d'Estaing a demandé à Simone Veil de modifier la loi, c'est parce qu'il y a eu le MLAC, parce qu'il y a eu le combat mené par Gisèle Halimi, parce que c'est tout un chemin qui a duré à peu près 3 ans en tout. Enfin, le MLAC a duré 18 mois, mais ça m'a paru très important de raconter cette histoire pour que ça fasse partie de notre mémoire commune. Ça fait partie de l'histoire du pays. Et c'est vrai que les luttes sociales, de manière générale, ne sont pas tellement racontées au cinéma. Et en plus, quand ça concerne les droits des femmes, encore moins. Donc ça m'a paru très important de rappeler cette période, aussi pour se souvenir que les lois se réclament. Et que si on est très nombreux et nombreuses à les réclamer, parfois ça marche.
Je rappelle juste aux éditeurs, donc le MLAC signifie Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Cela a permis, par ce combat, d'instaurer ce droit à l'avortement, qui est le résultat quand même de plusieurs décennies, de grandes difficultés, de grandes détresses aussi des femmes. On ne compte plus le nombre d'avortements qui avaient lieu par année, mais je crois que c'était de l'ordre de plus de 100 000, non ?
Je pense que... Enfin, on ne peut pas savoir les avortements clandestins,
oui,
on
ne
peut pas savoir, quoi. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 200 000 avortements par an, depuis toujours, légaux. Donc je pense qu'il y en avait tout autant clandestins, voire plus.
Alors, ce film, c'est cette rencontre avec cette jeune femme, et puis ce mouvement. Que décrit ce film précisément? Quel type de relation s'établit? Et est-ce qu'il y a une prise de conscience ou peut-être l'amorce d'un combat de sa part pour ce mouvement?
Mais en fait, c'est vraiment une époque où l'avortement a toujours fait partie de la vie des femmes et des couples depuis la nuit des temps. Et sauf que c'était une époque, effectivement, où c'était cher, c'était dangereux, on risquait sa vie, où on risquait d'être mutilé. Tout le monde connaissait une femme qui était sortie d'un avortement clandestin, soit décédée, soit mutilée. Et donc c'était une terreur permanente et c'était un sujet d'actualité permanent. Et donc cette femme découvre en fait un lieu d'accueil où les avortements sont pratiqués donc illégalement, mais pas clandestinement. C'est-à-dire que le principe du mouvement du MLAC, c'était d'expliquer que la loi était caduque, que personne ne la respectait. Et donc, ces groupes, donc à la fin, il y avait 300 antennes sur le territoire français, pratiquaient des avortements pour, donc gratuitement, sans danger, grâce à une nouvelle méthode qui est dite la méthode Carman, qui était une méthode par aspiration, qui était très peu douloureuse, gratuite, rapide et sans danger. Et très simple, très facile à faire. Et donc, le projet du film était aussi de remettre l'avortement à sa juste place, c'est-à-dire que arrêter une grossesse non désirée, c'est avant tout un soulagement. Et c'est très, très rarement représenté de cette façon-là au cinéma. C'est-à-dire que dans le film, il y a 7 avortements, c'est plus que dans toute l'histoire du cinéma. Et il est à sa juste place, c'est-à-dire que les femmes ont un problème et le MLAC leur propose une solution. Et tout ça dans une grande bienveillance, puisque le MLAC prenait en charge les femmes globalement, pas juste médicalement. Il y avait de l'éducation, il y avait une prise en charge de la douleur comme elle le pouvait. Et puis beaucoup de tendresse, en fait, parce que la tendresse est politique.
Ce film, sorti en 2022, a été permis ou a pu être produit avec quel soutien à ce moment-là ? Est-ce qu'il y avait des facilités, justement, pour proposer ce sujet au cinéma ?
Bon, il a été produit de manière assez classique, c'est-à-dire avec les financements habituels. Moi, j'ai travaillé 18 mois sur le scénario, et puisqu'il m'a fallu un peu étudier, quoi. Tout ça grâce à... Je me suis appuyée sur une thèse d'une chercheuse qui s'appelle Lucille Ruault, qui avait écrit la première thèse sur le MLAC. Et à partir de cette thèse, j'ai pu inventer mes personnages de fiction pour raconter au mieux cette histoire. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré des anciennes militantes du MLAC et des anciens militants aussi, médecins, non-médecins, voilà, et des femmes ordinaires qui ont milité pendant 18 mois. Et puis après, parce que ça se passe toujours comme ça, avec le scénario, on va chercher les financements. Donc les guichets habituels de télévision, de Canal+, de France 3, des régions, etc. quoi. Donc, mais ce n'est pas un film très cher, c'est un film qui a coûté 3 millions, ce qui est plutôt un petit budget par rapport aux films français.
Ce film est sorti en 2022. Ce que je disais, c'est que sa carrière d'exploitation se terminait en février 2023. Qu'est-ce qui détermine la carrière d'un film ?
Non, moi, il a été très bien exploité. Puis on a eu un grand prix au Festival de Locarno, qui est un festival international. On a eu d'autres prix dans d'autres festivals, mais il a eu une très belle vie. Et surtout, il a une vie qui ne s'arrête pas. C'est assez incroyable parce que... Donc il a très bien marché en salle. Aussi parce qu'il y a Laure Calamy, qui est une actrice très populaire. Mais ensuite, il est reprogrammé chaque 8 mars, il est reprogrammé à chaque fois qu'il y a une actualité autour de la loi Veil, autour de l'avortement. Là, en ce moment, il passe beaucoup en Drôme, puisque les centres de santé sexuelle sont menacés de fermeture. Le vote a lieu le 14 avril. Et il y a d'ailleurs une manifestation tout à l'heure, à 17h, dans les rues de Die, parce que c'est essentiel, quoi, de maintenir un lieu d'écoute pour l'éducation sexuelle, pour les préventions des violences, pour accueillir des femmes en détresse, surtout dans une zone rurale où il y a un désert médical flagrant. Donc, puis aussi pour démédicaliser toutes ces questions-là, on n'a pas forcément envie d'aller à l'hôpital pour parler de sexualité, de violences, de problèmes, de contraception, etc., quoi.
Ensuite, habituellement, tous les 8 mars, ce film est aussi proposé en projection pour des événements variés.
Oui, absolument. Enfin, pas que les 8 mars, mais je sais que là, il a été très projeté au moment de l'anniversaire de la loi Veil. Il a été projeté dans, je sais pas, 55 salles d'un seul coup. Enfin, ce qui est plutôt rare. Souvent, les films sont exploités 2 mois, 3 mois. Puis, il faut laisser la place pour les autres films qui sortent. Hein. Il y en a entre 5 et 10 qui sortent tous les mercredis. Donc voilà, il faut faire la place. Mais en tout cas, oui, il continue d'exister pour mon grand bonheur. Enfin, il est passé sur Canal+ aussi. Et il passera sur France 3, je crois, au mois de juin. Je ne sais plus, bientôt.
Ce tournage qui reconstitue une époque, l'année 74, comment amener justement cette conscience de l'époque au sein des comédiennes et des comédiens?
Déjà un peu les décors, les costumes aident beaucoup. On n'a pas la même attitude par rapport aux vêtements. Après c'est un film très écrit, donc il y avait des dialogues très précis à dire par rapport au langage. C'est une époque où on fumait beaucoup. C'est une époque qui est très agréable à filmer parce qu'il y a une esthétique. Moi, je suis née en 73, donc c'est une époque dont je me souviens pas très bien, mais par contre, j'ai des photos de tout ça. C'était très, très agréable à faire. Si j'avais eu plus d'argent, j'aurais eu plus de séquences d'extérieur. C'était ça qui coûtait le plus cher. Parce que pour tout le film, j'avais 8 véhicules. Donc, à partir du moment où on est dans la rue, il faut des véhicules. Donc, voilà, on n'a pas fait beaucoup de séquences de rue. Mais on s'est beaucoup amusé avec les papiers peints, le mobilier, etc. Ouais.
Comme vous le disiez, vous avez rédigé le scénario sur les données donc, de cette thèse de Lucille Ruault. Ce texte aborde tous les aspects de ce mouvement, que ce soit humain, administratif et voire juridique.
Vous parlez de la thèse, là ?
Oui.
Alors la thèse faisait 800 pages. Donc avec ma co-scénariste Axel Repère, on est vraiment partis comme des étudiantes quoi, à lire cette énorme somme passionnante. Et en fait, à partir de cette thèse, j'aurais pu écrire 200 scénarios différents parce qu'il y avait tout l'aspect politique, le parti communiste qui n'était pas d'accord avec le PSU, etc. Enfin, il y avait énormément de partis de gauche en plus à l'époque. Tout était passionnant, mais pour incarner vraiment ce mouvement que peu de gens connaissent, hein, le MLAC, il fallait qu'on puisse s'attacher vraiment à des personnages et des parcours. Et moi, ce qui m'a le plus touchée dans toute cette histoire, c'est l'entrée en politique de femmes très ordinaires, pas forcément éduquées, pas forcément politisées, qui d'un seul coup rentraient dans le militantisme par soucis très intenses que d'autres femmes puissent bénéficier de cet accueil et surtout leur éviter la souffrance, le danger, la mort. Et puis c'est un mouvement qui a réussi vraiment à annuler les hiérarchies, c'est-à-dire des médecins et des non-médecins travaillant ensemble, des hommes et des femmes, des bourgeoises et des ouvrières. Et tout ça se mêlait, toutes ces compétences se mêlaient vraiment au service des femmes qui venaient avorter. C'est très rare. Moi, j'ai participé à plusieurs mouvements militants. Et c'est vrai que c'est souvent la personne la plus éduquée, la plus diplômée ou la plus fortunée qui prend le lead assez facilement, parce que c'est notre société faite comme ça. Et donc ça, c'est très émouvant à voir et à mettre en scène, quoi. Donc à partir de ce désir-là, c'est naturellement que j'ai eu envie d'écrire un personnage d'ouvrière très simple, incarné par Laure Calamy. Qui est habituée à subir l'autorité de son père, puis celle de son patron, puis celle de son mari, qui n'en est pas plus révoltée que ça, parce qu'elle n'a pas un mari désagréable ni un patron odieux, mais en tout cas, elle est habituée à cette soumission et à subir les événements. Et d'un seul coup, elle prend sa vie en main, quoi.
Annie, donc, le personnage principal de ce film, va croiser autant d'alliés que d'opposants. Alors, déjà à cette époque, il y a aussi les pour et les contre de l'avortement. Cela demeure encore aujourd'hui, non sans peut-être une certaine crainte par rapport à cette montée de l'extrême droite et qui pourrait remettre en question cette liberté d'avorter, ne serait-ce que, comme le signalait Laureline Fontaine, ce n'est pas forcément la loi qui peut être abrogée, mais son contexte et sa teneur, c'est-à-dire de peut-être réduire le délai de semaine pour l'acte. Alors, est-ce qu'il y a aussi une certaine inquiétude et une vigilance aussi des femmes aujourd'hui par rapport à ce contexte ?
C'est évident que, moi, ma génération, on a vraiment grandi en... Enfin, c'était acquis qu'on avait le droit à l'avortement, à la contraception. Enfin, c'était pas un débat. Et je pense que justement, parce que la lutte a cessé, tout a commencé à se compliquer. Bon, ça fait un paquet d'années que ça se complique. C'est-à-dire que les médecins militants des années 70 sont partis à la retraite. Il y a beaucoup de jeunes médecins qui disent d'emblée qu'ils ne veulent pas pratiquer les avortements en sortant la fameuse clause de conscience, donc qui permet aux médecins de ne pas réaliser des actes. L'avortement est le seul qui a la double clause de conscience. Ensuite, avec la loi Bachelot, comme vous savez, des maternités ont fermé avec le regroupement des hôpitaux. Quand une maternité ferme, c'est aussi un centre IVG qui ferme. Et puis, le désert médical fait que forcément, quand on a 150 km à parcourir pour aller avorter, si on a des enfants à faire garder, ou si on n'a pas le permis, ou si on est mineur, tout ça est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc l'accès est effectivement tout le temps en danger. Et puis, il ne faut pas aller jusqu'aux États-Unis. Enfin, je sais que quand Trump a changé la loi, les choses se sont... tout le monde a paniqué par rapport à ça, mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. En Pologne, on ne peut pas avorter. En Autriche, c'est très compliqué. En Italie, c'est quasi impossible. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que les choses sont... Évidemment, c'est plus facile dans les grandes villes, parce qu'il y a plusieurs hôpitaux, donc plusieurs médecins, etc. Mais dès qu'on s'éloigne un peu des grandes villes, ça devient très tendu, effectivement.
Comme ce combat pour ces centres de santé sexuels, pour vous, c'est une aberration, d'autant plus dans les milieux ruraux où il y a déjà souvent un désert médical, mais en plus, on attaque au social aussi, et peut-être aussi à une certaine bienveillance, et peut-être un moment où toute personne peut se confier sur ses difficultés.
C'est-à-dire que les 7 centres de santé de la Drôme sont menacés de fermeture. Là, le vote a lieu le 14 avril. Et c'est 3 salaires, parce que les 3 conseillères conjugales se relaient pour faire des mi-temps. Donc, je pense que ce n'est pas un budget énorme, ces 3 salaires, il ne faut pas exagérer, par rapport à des routes, à des parkings pour accueillir les touristes l'été, etc. C'est des tout petits budgets et qui me semblent vraiment indispensables parce que ce sont ces femmes-là qui vont dans les collèges et les lycées pour faire de l'éducation, de la prévention. Nos enfants ont besoin qu'on leur parle de sexualité parce que parler de sexualité, c'est parler en fait de liens, c'est parler de comment on se comporte les uns avec les autres. C'est parler de respect, de consentement. C'est évidemment pas parler du Kama Sutra ou les inciter ou je ne sais quoi, avoir une sexualité précoce. C'est juste leur parler du respect les uns des autres. C'est déconstruire les images qu'ils peuvent avoir en tête avec les consultations de vidéos pornographiques ou ce genre de trucs. C'est aussi parler d'une sexualité joyeuse et bienveillante et pas leur parler que de maladies et de dangers. C'est aussi ça le risque. S'il n'y a pas beaucoup de discours bienveillants, les enfants, ils entendront parler que de sida, de viol. Enfin, ça, on ne peut pas résumer la sexualité à des choses négatives comme ça. Je pense qu'ils sont très curieux, les enfants et les adolescents, qu'on leur parle de ces choses-là, qui sont extrêmement tabous. Il y a beaucoup de parents qui peuvent dire non, mais c'est aux familles de s'emparer du sujet. Il se passe que les familles n'y arrivent pas. Ensuite, on sait maintenant, les chiffres sont sortis, qu'il y a 3 enfants par classe qui subissent des violences sexuelles chez eux. Ce sont ça les chiffres officiels. Il faut que ces enfants-là entendent parler de ce qu'ils vivent pour pouvoir aller appeler à l'aide. Il faut aussi que les enfants soient au courant que ces relations incestueuses ne sont pas normales. Si on ne leur en parle pas, ils peuvent croire que c'est quelque chose de normal. Ensuite, les centres de santé sexuelle sont là aussi pour accueillir les jeunes femmes et les femmes adultes quand elles ont un besoin de conseils, quand elles ont un besoin de parler. Il y a les femmes qui subissent des violences à la maison, qui ne savent pas où s'adresser. C'est beaucoup de choses, les centres de santé sexuelle. C'est en gros beaucoup la santé des femmes, mais pas que. Il y a les jeunes garçons homosexuels qui ne savent pas où aller aussi. Enfin, c'est un lieu d'accueil, de parole, d'écoute, de conseils, d'éducation qui sont très importants.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du DIWA.
107.5,
101.7
FM.
On ne connaît pas la raison principale de cette suspension ou de cet arrêt de ces centres de sexuels depuis le département.
Ben, on sait que tous les départements en ce moment font des économies et tout de suite c'est la culture, l'éducation, la santé. C'est toujours comme si ce n'était pas indispensable. Il me semble que c'est au contraire les trois piliers de notre société, quoi. C'est ce qui fait... ce qui fait le commun, quoi. Si tout le monde a accès aux mêmes soins, c'est ça qui fait qu'on fait société tous ensemble, quoi, je crois.
Blandine Lenoir, vous êtes comédienne, vous étiez interprète dans pas mal de films, et notamment Seul contre tous, de Gaspard Noé, un film qui aborde justement ce problème de sexualité, de cette violence faite aux enfants ou aux adolescents. Je ne dis pas que le film traite précisément de ça, parce que c'est un peu ambigu dans ce monologue de fin de film. Mais pour vous, cette expérience avec Gaspard Noé en tant que comédienne et cinéaste, est-ce que ça vous a appris des choses ?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai démarré dans Carnes, son premier court-métrage, moyen-métrage de 40 minutes, quand j'avais 15 ans, et on a fait Seul contre tous quand j'avais 19 ans à peu près. Ça a été une école formidable. Le film n'aborde pas que ça, hein. C'est un film, c'est très difficile à résumer, mais en gros, c'est un film sur un homme habité par la haine, quoi, de tout, et la seule personne qu'il aime, c'est sa fille, mais sinon, c'est un homme assez monstrueux et très seul. Enfin, c'est très difficile à résumer, mais oui, c'est un film qui a eu un énorme impact à l'époque et qui reste assez culte. Pour moi, ça a été une école formidable. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des films très durs, Gaspard, mais qui est très gentil, très doux, qui, moi, m'a beaucoup encouragée. Donc je vous parle de ça dans les années 90. J'avais pas beaucoup de modèles de femmes réalisatrices. Il y avait Agnès Varda, Toni Marshall, bon, bien sûr Chantal Akerman, mais j'avais très peu de modèles. Et j'osais à peine rêver à faire ce métier. Et Gaspard m'a très vite encouragée. Et ça a été très précieux. Oui, c'était des paroles très importantes à l'époque.
Je rappelle juste que Carnes est un court-métrage qui est en quelque sorte le préambule aussi de Seul contre tous, hein, puisque les personnages sont identiques. Vous-même donc avez abordé la mise en scène. Vous avez à votre effectif environ 12 films, dont 4 longs-métrages. Tous traitent d'une femme dans son sujet. Des femmes qui sont abordées sur un instant de leur existence, avec ces remises en question, ces mises au point familiales ou de société. Comment s'inspire ces scénarios? Vous les avez rédigés vous-même, les scénarios de
oui,
ces
oui.
films?
Oui, bah, souvent je suis accompagnée par des co-scénaristes, mais oui, oui, bien sûr.
Pour vous, en quelque sorte, quelle est cette démarche de produire ces films sur ces femmes? C'est un journal? C'est un témoignage d'une époque?
Non, je pense que je fais comme mes collègues masculins qui souvent ont des personnages principaux masculins. Enfin, il n'y a pas de différence. Puis il n'y a pas que des femmes dans mes films. C'est des femmes qui vivent en société, donc qui sont entourées de pères, de frères, d'amants, d'amoureux, de maris. Mais c'est vrai que les personnages principaux sont des femmes, certainement parce que je suis une femme, mais encore une fois, mes collègues masculins, on leur pose pas la question quand leur personnage principal est un homme, ça paraît très normal, donc je crois que je fais juste la même chose.
Qu'est-ce qui vous donne en vous l'envie de tourner tous ces films ?
C'est-à-dire que c'est mon moyen d'expression, quoi, comme un peintre qui aurait envie de peindre une toile sur... Enfin, c'est exactement la même chose, sauf que le cinéma, ce qui est plus difficile, c'est qu'on a besoin d'être assez nombreux, finalement. Donc, voilà, y a cette phase d'écriture permet de mettre à plat toutes les envies de mise en scène, etc., pour aller chercher de l'argent et pouvoir réunir cette centaine de personnes dont on a besoin pour faire un film. Je pense que chaque fois, ça part d'une colère ou d'une émotion par rapport à un sujet que j'ai besoin d'aborder pour, je ne sais pas, peut-être pour le regarder plus apaisé, justement, ou pour avoir l'impression de participer à ma façon à notre société. Je me rends bien compte en le disant que c'est une ambition énorme, quoi, de prendre la parole, finalement, mais certainement qu'entre chaque film, je me demande si je me pose cette question de ma légitimité à prendre cette parole. Mais c'est vrai que chaque film qui reçoit ben voilà, une espèce de retour de public qui est joyeux, qui me donne à chaque fois l'envie de continuer, quoi. Peut-être que si, dès mon premier film, je n'avais pas reçu cette espèce d'approbation du public, j'aurais arrêté très vite, j'en sais rien, mais j'ai plutôt, ça m'encourage beaucoup à continuer. Et puis c'est vrai que voilà, ayant commencé à 15 ans, c'est vraiment l'endroit où je suis le plus heureuse, c'est sur un plateau de cinéma, oui.
Il y avait ce film, donc Seul contre tous, je vous parlais avant cet enregistrement de ce final, enfin de ce rendu de ce film qui est très violent. Et lors du tournage, dans quel contexte se tourne ce film? Est-ce que c'est le rôle du cinéaste, du monteur, du son aussi, qui amène cette violence, ou alors il y avait quelque chose de présent sur le plateau de tournage?
C'était un tournage très particulier parce qu'il y avait très peu d'argent. Gaspard Noé était son producteur lui-même. Il avait un tout petit peu d'argent de Canal+. Donc on tournait dès qu'il avait un peu de pellicule ou dès qu'il trouvait un décor. Et en ce cas-là, il nous appelait, Philippe Naon et moi-même, et on se retrouvait dans des endroits improbables, avec des équipes improvisées. Enfin, c'était très, très rock'n'roll, mais ça travaillait très dur. Donc, c'était très... Comment dire, il y avait une très bonne ambiance, mais on travaillait beaucoup d'heures et dans un inconfort total. On avait froid, on avait faim. Enfin, mais il y avait une grande joie. Enfin, Gaspard avait 25 ans. Hein, donc, c'était... il y avait une grande énergie de la jeunesse et la foi dans le cinéma. Et bien sûr, comme chaque film, tout se construit. Les images ne sont qu'une partie du travail. Après, il y a évidemment le montage image, le montage son, les bruitages, la musique, etc., qui construit le film. Donc, oui, enfin, moi, j'ai tourné une séquence où Philippe Naon me fait exploser la cervelle avec une arme à feu. C'est des séquences très compliquées à mettre en scène avec de la cervelle, etc. Sur le coup, on rigole. Et puis, après, au bout de 8-9 prises, on rigole plus beaucoup parce que c'est un peu difficile à faire. Mais en fait, c'est très technique, hein, ce genre de séquence. C'est pas plus. C'est un peu pénible parce qu'il fait froid, que c'est pas très confortable. Enfin, voilà, mais c'est pas plus dur qu'autre chose, quoi.
Philippe Naon, qui est parti l'année dernière, je crois bien.
Non, il est parti pendant le Covid, donc ça fait déjà 4 ans.
Ah, déjà, je pensais que c'était plus récent. Et donc, il y a eu un portrait de lui dans lequel vous intervenez, hein, dans ce documentaire. Pour vous, qu'est-ce que représentait Philippe Naon aussi, cet acteur bourru, peut-être même patibulaire?
C'est un monsieur très, 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 très... gentil, un communiste passionné, qui était un peu plus jeune ou un peu plus jeune que mon père, je crois. Mais sa fille était un peu plus jeune que moi, mais on avait quelque chose comme ça une relation paternelle, père-fille assez basique. Il était extrêmement bienveillant avec moi et il avait tout à fait conscience de ce que c'était que, oui, il devait avoir 45 ans ou 50 ans. Vous voyez bien ce que c'était que pour une gamine de 15 ans d'être sur un tournage comme ça, encore une fois, très très pauvre. Donc il était très bienveillant, voilà, je n'ai pas d'autres mots.
Ce film, donc Annie Colère, est encore prévu en projection pour deux dates sur la Drôme. Le 30 mars, à la salle des fêtes de Sceaux, à 18h. Et l'autre présentation sera au cinéma Le Pestel, le 11 avril, à 20h. Vous serez présente lors de ces projections?
À 10, c'est sûr. À Sceaux, je vais voir si j'arrive à me libérer.
Et puis, est-ce que lors de ces films, comment s'inspire ce scénario? Est-ce que parfois vous avez une musique qui résonne et qui inspire peut-être les mots?
Non, en général, je pars d'un personnage principal et je tire les fils autour de ce personnage. Mais bon, c'est vraiment un grand labeur, hein, l'écriture d'un scénario, ça prend beaucoup de temps. Il y a des périodes de désespoir, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. C'est pas du tout de la littérature, quoi. Donc c'est très technique, mais c'est passionnant.
Tout à l'heure, je recevais Xavier pour son César de meilleur monteur, hein, 2025. Il nous parlait donc de ce travail du montage, avec ce rapport avec le réalisateur ou les producteurs pendant ce montage. Est-ce que vous-même assistez à ces séances de montage ?
Ah, mais c'est parce qu'on assiste et qu'on y est en permanence, bien sûr. Oui, le montage se fait complètement main dans la main. Réalisateur, réalisatrice et monteur, monteuse. On est vraiment ensemble toute la journée pendant 4, 5, 6 mois, ça dépend de la durée. Et c'est vraiment le monteur, je ne pense pas qu'il puisse travailler sans le ou la réal à côté, quoi. C'est quand même le ou la réal qui sait à quoi le film doit ressembler. Et on va ensemble vers ce but. Et parfois, et c'est plus difficile de l'atteindre, mais c'est une vraie collaboration, comme dans toutes les étapes, c'est-à-dire que avec mon chef opérateur qui s'occupe de la lumière et du cadre, on travaille ensemble, il travaille pas sans moi, etc. quoi. En fait, c'est vraiment de la collaboration à tous les endroits.
Et quand vous écrivez vos scénarios, vous ne faites pas les dialogues aussi ?
Si, bien sûr.
Si.
Oui, oui, bien sûr.
Et justement, ces dialogues se constituent avec des comédiennes ou des comédiens à qui vous pensez pour qu'ils puissent les interpréter ? Ou alors les dialogues sont établis d'une certaine manière, peu importe qui les interpréteront ?
Oui, il faut bien comprendre qu'un scénario, c'est un outil de travail qu'on distribue à tout le monde, c'est-à-dire que c'est avec ce grand paquet de feuilles qu'on va chercher de l'argent, c'est avec ça qu'on va chercher des acteurs, des techniciens, des actrices, enfin, donc c'est vraiment une matière qui doit être tout à fait aboutie. Et après, quand on travaille les séquences avec les comédiens en répétition ou juste quand on fait une lecture, bien sûr, on peut modifier ici ou là quelques mots ou une phrase qui ne convient pas, mais on ne peut pas arriver sans dialogue pour aborder des comédiens et des comédiennes. Sinon, on dirait, qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que c'est mon personnage, quoi ? Le dialogue raconte un personnage, sa façon de parler, les mots qu'il emploie, son champ lexical, enfin tout ça raconte beaucoup aussi.
Vous établissez, alors il y a des metteurs en scène qui utilisent des storyboards pour imaginer ce que donnera chaque plan. Est-ce que vous avez cet abord également ?
Pas du tout. Moi, je travaille vraiment beaucoup avec c'est le comédien ou la comédienne qui est le centre de ma mise en scène. Donc, je mets d'abord en scène ma séquence, voir comment elle fonctionne. Et après, je décide avec mon chef opérateur comment on va filmer tout ça. Mais parfois, il y a des... par exemple, pour Annie Colère, oui, on s'est beaucoup posé la question de comment filmer les avortements. Il n'était pas question de choquer qui que ce soit, de faire des scènes... voilà, je rappelle qu'Annie Colère est vraiment un film tout public. Il y a des jeunes de 11-12 ans qui l'ont vu et qui étaient tout à fait passionnés, pas du tout choqués. Moi, je ne tenais pas du tout à fabriquer des images qui dérangent ou qui soient choquantes. Donc ça, oui, on a beaucoup répété avec le chef opérateur, avec mon assistante. On cherchait comment cadrer cet événement, quoi. Cette position de jambes écartées pour les femmes, etc. Ça, évidemment, il y avait des questions techniques qu'on s'est posées, mais sinon, globalement, ce n'est pas quelque chose que je fais en avance, non.
Et lors de ces projections, il y a un public, parfois peut-être aussi des femmes qui ont vécu cette époque. Est-ce qu'il y a des échanges avec elles et vous, ou avec le public, pour peut-être rappeler un peu ce qu'était cette période ?
Moi, j'ai accompagné le film devant une quarantaine de projections et des débats. À chaque fois, je pose la question, est-ce qu'il y a dans la salle une ancienne ou un ancien du MLAC ? Il y a toujours 2-3 mains qui se lèvent. À chaque fois, les gens sont très très émus, surtout les très jeunes gens, parce que pour eux, les années 70, c'est il y a très longtemps, et de voir que dans la salle, il y a des dames ou des hommes qui ont la tête de leurs grands-parents et qui ont vécu ces événements, ça les touche énormément. Il y a toujours des témoignages, ce sont des débats très touchants, très passionnants, mais aussi très joyeux, parce qu'encore une fois, Nicolère, c'est pas du tout un film sinistre, c'est un film qui raconte un combat qui va être quand même victorieux. Même si, voilà, je ne peux pas tout révéler, mais il y a bien sûr des déceptions. Le film est là aussi pour raconter que les lois se réclament et que quand la mobilisation civile est massive, parfois on peut gagner.
Et puis, on revient aussi sur cet aspect. Vous parliez pendant le tournage de Seul contre tous, où vous aviez froid, faim. Donc, on peut imaginer des budgets très restreints. Est-ce que aujourd'hui, le cinéma est-il un havre de paix ou d'une certaine abondance pour les professionnels qui y travaillent? Ou alors, il y a une grosse difficulté pour ça?
Ben, en fait, il y a de tout. C'est exactement comme un livre de poche comparé à un livre d'histoire de l'art. Il y a des films à 30 millions, 20 millions, des films qui se font avec 400 000 euros. Donc, il y a absolument de tout. Moi, je fais vraiment des films, en gros, autour de 3 millions, ce qui sont des budgets petits, moyens, on va dire, mais qui font que tout le monde est très bien payé pour travailler. Enfin, y a, c'est juste... voilà, moi, je préférais tourner 40 jours et je tourne que 35. Je préférais être plus dans la rue. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je préférerais... Mais je vais pas me plaindre, pas du tout, ce qu'il y a, c'est que c'est... moi, je joue ce jeu, effectivement, d'avoir toujours une personne, un acteur ou une actrice un petit peu... people, comme on dit, c'est-à-dire très, très connu du grand public. Et c'est vrai que ça aide à financer les films. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça fait des grands succès non plus. Je n'ai pas cité de films, mais il y a des films là, qui sont sortis récemment avec des grandes stars et personne n'est allé les voir. Donc. Et puis voilà, si on reprend l'exemple de l'histoire de Suleiman où il n'y a pas du tout de stars, le film a eu un succès magnifique. Donc, c'est pas si simple. Les règles sont pas si simples. Mais c'est sûr que pour les financements, avoir des noms au casting, ça aide beaucoup.
Les sujets sont parfois aussi un obstacle pour des financements.
Les comédies, c'est beaucoup plus facile à financer, ça c'est sûr. Enfin, si la comédie est bien écrite et vraiment drôle. Quand les sujets sont plus sombres, ça peut être plus difficile, mais ça dépend. Encore une fois, je reviens au scénario. C'est vraiment l'outil qui peut convaincre les gens. Un scénario magnifiquement écrit, où il y a une tension dramatique très forte, des personnages passionnants, des dialogues... très réussi, ce sera tout de suite, il y aura plus d'enthousiasme. Et puis il y a aussi une espèce de, comment dire, quand on a fait 2, 3, 4 films, les financeurs savent un peu ce qu'on est capable de faire et font plus facilement confiance quand même. C'est peut-être pour le premier film que c'est le plus compliqué,
Blandine Lenoir, je vais vous laisser pour aller rejoindre ce cortège de cette manifestation contre la fermeture des centres de santé sexuelle. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, en tout cas.
Et je voudrais juste rajouter une chose. Si vous voulez soutenir les centres de santé sexuelle pour pas qu'ils ferment, donc le vote, c'est le 14 avril. Il y a une pétition en ligne. En fait, sur Google, vous tapez « pétition CSS Drôme » et vous allez tomber sur la pétition. C'est important que le département comprenne que beaucoup de gens sont soucieux de préserver ces endroits de prévention et d'information.
Blandine Lenoir, merci et bonne soirée à vous. Au revoir. Settle.
Forget. He said, oh.